comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Alain Pompidou, pour l'amour de l'art, une autre histoire des Pompidou. Bien sûr, on ne saurait évoquer Georges et Claude Pompidou sans parler de l'art.
Non, mais finalement, l'amour de l'art était véritablement une distraction qui est devenue une nécessité. Une nécessité pour ce couple qui s'était rencontré en 1933, qui était tombé follement épris l'un de l'autre et qui ne se sont jamais quittés, y compris après la mort de mon père, puisque ma mère était veuve pendant 35 ans, qu'elle a servi la mémoire de mon père à travers le Centre Pompidou, à travers sa fondation et à travers l'art et la culture, puisque tout, il y avait la famille, sa fondation, l'art et la culture, c'était ça qui la mobilisait. Et elle était toujours en anticipation, elle était toujours dans la poésie, elle était toujours dans le rêve et l'action. Et c'est ça qui la caractérisait, et comme l'a dit un des collaborateurs de mon père, Claude Pompidou, c'était l'élégance sans étiquette. Et Georges Pompidou, à l'âge de 16 ans, avait retrouvé et a publié une de ses dissertations de philosophie, où on disait ce qui est important, c'est le beau, le bon et le bien. Le point de départ, c'est véritablement les illustrations de La femme sans tête, le chiffre 100 de Max Ernst, préfacé par André Breton, qui était en fait un cahier collage qui a été transformé en gravure et que mon père a acheté à l'âge de 18 ans avec son argent de poche quand il préparait Normal. Ça, c'était véritablement le sens de la poésie à travers véritablement les premiers peintres surréalistes, comme Max Ernst. Bon. Et puis en 1948, il fréquente les galeries. Georges Pompidou venait de perdre sa mère, le général de Gaulle n'était plus au pouvoir. Georges Pompidou s'ennuyait et ma mère l'a traîné dans les galeries. Et à ce moment-là, ils ont découvert un peintre peu connu qui s'appelle Chapoval, qu'ils ont acheté en 1948, leur première peinture qui m'a absolument séduit alors que moi j'avais 6 ans. Donc j'ai été bercé en quelque sorte par l'art et la culture. On me traînait en poussette dans les musées traditionnels, aussi bien à Venise qu'à Paris, à travers l'Europe. Mais on m'emmenait dans les galeries de peinture. Et j'ai découvert un petit Nicolas de Staël que ensuite ma mère a offert à mon père en 58. Quand il est revenu au cabinet du général, elle a eu peut-être un mot un petit peu trop élevé. Et pour se faire pardonner, elle lui a offert ce petit Nicolas de Staël, les toits de Paris.
Que vous avez toujours
chez moi, bien évidemment.
Georges Pompidou s'est fait faire sa sculpture un jour.
Oui, en 53, il quitte le général de Gaulle, tout en restant très proche de lui, il n'est plus son chef de cabinet, il rentre à la Banque Rothschild, et là il veut marquer une césure dans sa carrière, et il fait comme les empereurs romains, il fait faire son buste. Sauf que le sculpteur a fait un buste sans tête, un buste sans corps, plutôt uniquement une tête. C'était Étienne Agenu. Et moi, j'ai assisté effectivement aux poses, et sur la cheminée, il y avait un tout petit tableau, mais minuscule, 5 cm sur 10, tout gris. J'ai dit, mais ce tableau est magnifique, et j'avais 11 ans. Et je le regarde, et on me dit, mais il est magnifique. Et Agenu rigole, et me dit, c'est un Nicolas de Staël, c'était un des premiers.
Alors vous avez effectivement, comme vous le dites, été baladé dans tous les musées, mais votre maman, peut-être plus librement que votre papa, parce qu'il avait d'autres activités, a fréquenté tous les salons, toutes les galeries et tous les peintres de l'époque, et les peintres contemporains surtout.
Les peintres contemporains, et puis la mode, c'était effectivement l'ambassadrice de la mode française, et pour elle, la mode, c'était une forme de libération de la femme. Elle disait, je ne suis pas coquette, mais j'aime l'élégance, je ne me regarde pas souvent dans la glace, et finalement, elle a représenté la mode française, et puis elle était passionnée de musique, elle était passionnée de littérature, elle lisait Musil et Hölderlin, qui étaient vraiment les grands préfigurateurs du romantisme actuel, et puis tous les nouveaux artistes. Et les artistes devenaient ses amis et lui donnaient des œuvres, et pour elle, et pour sa fondation, qui était sa passion, sa deuxième passion.
Alors justement, est-ce que Claude et Georges Pompidou, aujourd'hui, s'ils nous voient, ne sont-ils pas plus fiers qu'il y ait un musée Georges Pompidou avec des œuvres qui viennent de différents univers, plutôt que peut-être tout simplement leur carrière, puis leur vie?
Leur vie est extrêmement importante. Et s'ils nous regardent, je pense que il y a véritablement une trace des Pompidou qui est la passion pour l'amour de l'art et que c'est leur marque à travers le Centre Pompidou et l'action de Claude Pompidou pendant toute la période où elle a servi la mémoire et du général de Gaulle et de Georges Pompidou.
Alors aujourd'hui, vous reprenez ce flambeau, vous continuez ce flambeau.
Bien sûr, je continue ce flambeau par des témoignages sur la vie, sur ma famille. J'ai fait la correspondance de mon père, j'ai fait un livre sur ma mère. Le troisième élément de la trilogie, c'est les Pompidou pour l'amour de l'art. Après ça, ça va s'arrêter, je vais faire autre chose.
Mais écoutez, vous allez revisiter les musées?
Bien sûr, je vois toutes les collections, je vais régulièrement dans les ventes, j'ai pas d'argent suffisant pour pouvoir acheter, mais je vais acheter des jeunes artistes.
Absolument, merci beaucoup Alain Pompidou. Pour l'amour de l'art, une autre histoire des Pompidou, et c'est publié aux éditions Plomb. Merci à vous.
Merci.